Vous écoutez Europe 1, il est presque 13h.
Europe 1 13h.
Céline Géraud.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver vraiment. Bienvenue à bord, Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal, la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général, ce matin à l'âge de 102 ans, figure de la Seconde Guerre mondiale, il aura passé une grande partie de sa vie à perpétuer la mémoire de son père. Sciences Po à la dérive, au lendemain du blocage d'un amphithéâtre de l'institution par des militants pro-palestiniens, Youssef Murciano, secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France, a réagi sur Europe 1 ce matin. Vous l'entendrez. L'actualité, c'est aussi les dividendes versés par les grandes entreprises françaises qui atteignent des niveaux records en ce début d'année. Et puis, avez-vous pris vos billets de train pour l'été prochain? Dès 6h ce matin, influence record dès l'ouverture des ventes sur le site de l'année SNCF. On en parle à la fin de ce journal. Allez, 13h01, bientôt, Géraldine Hamon, la tendance météo pour cet après-midi.
Plus calme et ensoleillé sur le sud et l'ouest, un peu plus nuageux au nord avec quelques éclaircies qui arrivent tout de même à percer. Le département de la Gironde reste placé en vigilance orange en raison des crues importantes. Les températures sont en hausse et jusqu'à 3 degrés au-dessus de normal de saison avec 13 à 17 degrés prévus sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 17 à 21 degrés près de la Méditerranée et dans le sud-ouest. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal.
Europe 1.
Et on ouvre donc ce journal avec cette institution à la dérive. Hier, des militants pro-palestiniens ont bloqué un amphithéâtre de Sciences Po Paris. Ils en ont interdit l'accès à une étudiante juive. La direction de Sciences Po et la ministre de l'enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, ont condamné l'action de ce groupe d'étudiants. Et il y a quelques minutes, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé des propos inqualifiables et parfaitement intolérables. Ce matin, Youssef Murciano, maintenant secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France, était l'invité de Dimitri Pavlenko à 7h10. Et pour lui, vous allez l'entendre, c'est de l'antisémitisme et du totalitarisme.
Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Quand on refuse l'entrée à un amphithéâtre, à un étudiant, à une étudiante, en disant « c'est une sioniste », sans même connaître ses opinions politiques, parce que c'est une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France, donc forcément juive, donc forcément sioniste, c'est une essentialisation d'une juive, c'est de l'antisémitisme. Totalitarisme après, parce que c'est la non-volonté du débat, le fait de ne pas vouloir entendre de contradictions qui font que ces personnes la laissent à la porte. On essentialise et on totalitarise. Voilà ce qui s'est passé à Sciences Po hier.
Youssef Murciano, au micro de Dimitri Pavlenko à 7h10 sur Europe 1. Et on prolongera évidemment le débat sur cette institution à la dérive avec mes chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas et Paul Melun. Et vous, bien sûr, auditeurs d'Europe 1, si vous souhaitez réagir.
Au 01 80 20 39 21, le numéro est non surtaxé. Il est 13h02 sur Europe 1. Vous écoutez le journal de Céline Géraud.
Et dans cette Europe 1 13h, évidemment, on va revenir sur la disparition à 102 ans de Philippe de Gaulle, le fils du général, amiral et sénateur. Philippe de Gaulle aura passé une grande partie de sa vie à perpétuer la mémoire de son père, Alexandre Chauveau.
Oui, avec entre autres ses 13 tomes de lettres, notes et carnets du général, publiés entre 1980 et 1997. Du gaullisme, Philippe de Gaulle donnait cette définition. C'est le sens moral de la nation, la constante des valeurs françaises de tous les temps. En 1970, il a 48 ans quand son père décède, une mort tragique pour le pays qui lui inspirera cette phrase. Voici donc la fin d'un des plus grands hommes de France et d'un père qui m'a souvent donné l'impression qu'il aurait aussi bien sacrifié son fils que lui-même à son destin historique. Écoutez Jacques Vendroux, petit-neveu du général, à propos de la relation entre Philippe de Gaulle et son père.
Il a vécu, c'est vrai, quelque part dans l'ombre de son père. Il n'en a pas vraiment souffert. C'est-à-dire qu'il est très, très respectueux de la carrière, évidemment, de son père. Il était très respectueux de la famille. Il n'a pas revendiqué sans arrêt « Je suis le fils du général de Gaulle ». Je le voyais, il allait faire ses courses. Vous voyez, c'était quelqu'un qui était complètement abordable.
Alors, de son père, Philippe de Gaulle avait hérité l'allure fière et une ressemblance physique frappante. Il fut lui aussi militaire une large partie de sa vie, engagé dans les forces françaises libres, puis dans la marine, où il gravit les échelons jusqu'à devenir amiral. L'Élysée salue ce matin la figure d'un résistant, d'un combattant de la paix et de la liberté, ainsi que d'un passeur de l'histoire. Un hommage national lui sera rendu la semaine prochaine aux Invalides.
Alexandre Chauveau pour Europe 1. Philippe de Gaulle s'est donc éteint cette nuit à l'Institut National des Invalides, dont il était pensionnaire depuis 2 ans. Selon les informations d'Europe 1, il sera inhumé dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, aux côtés de sa femme Henriette, en face de la tombe de son père. Et à Colombey-les-Deux-Églises, l'émotion est très forte ce matin. C'est une page qui se tourne. Écoutez le maire de la commune, Pascal Babouet.
À Colombey, tout est prêt, bien évidemment. Pour l'instant, j'attends les informations liées à la famille pour organiser son inhumation. Le sentiment qui prévaut ce matin, c'est bien évidemment de la tristesse, même si les choses étaient attendues, parce que avec son grand âge à 102 ans, on savait très bien que l'échéance était proche. C'est quand même une page importante qui se tourne, parce que tous ceux qui ont connu le général et qui étaient proches de lui, et maintenant après celle de l'amiral, ben voilà, maintenant c'est terminé, on va passer sur des générations beaucoup plus récentes, beaucoup plus jeunes. Ils ne sont pas liés à l'histoire de la même façon, à part rattachés par le nom, bien évidemment.
Pascal Babouot, le maire de Colombey-les-Deux-Églises, qui sera d'ailleurs avec nous dans la deuxième partie d'Europe 1 13h vers 13h30, avec également Catherine Ney, qui avait rencontré l'amiral il y a quelques mois pour le journal du dimanche. Son témoignage est donc précieux. Alors, que reste-t-il du gaullisme aujourd'hui? Eh bien, venez témoigner, Europe 1 13h vous donne la parole.
Vous composez dès maintenant le 01 80 20 39 21. Il est 13h05 sur Europe 1. Vous écoutez la suite du journal avec vous, Céline Giraud.
Avec cette question, est-ce qu'on a assiste à un tournant dans la lutte contre le trafic de drogue à Marseille. 13 personnes sont actuellement en garde à vue, soupçonnées d'appartenir au puissant clan de la DZ Mafia, mais aussi d'avoir orchestré une tentative de règlement de compte en Espagne sur la Costa Brava en janvier 2023. Stéphane Burgade, ce n'est pas le premier coup de filet des enquêteurs contre les réseaux. Ces derniers mois, ils s'enchaînent.
En effet, on se rend compte de deux choses. On ne fait pas seulement tomber les petites mains du trafic en ce moment, mais vraiment des gros bonnets, comme récemment le chef du clan rival des Yoda, ou encore l'ancien patron de la Turca de la cité La Castellane. Tous les deux ont d'ailleurs été arrêtés à l'étranger, respectivement au Maroc et en Algérie. La coopération internationale fonctionne vraiment. Et en attendant de connaître le résultat des 13 gardes à vue qui sont en cours en ce moment à Marseille, eh bien le nombre de narcotrafiquants qui est mis derrière les barreaux depuis un an est déjà significatif, a relevé le nouveau préfet de police, Pierre-Édouard Colliex, lors de sa prise de fonction.
Les choses demeurent tendues et le travail demeure à faire, mais 80 criminels derrière les barreaux depuis l'an dernier, c'est une situation qui s'améliore.
Mais alors, est-ce qu'on est pour autant à un tournant dans la lutte contre les narcotrafiquants? Restons prudents, tempère. De son côté, Bruno Bartosetti, le secrétaire unité SGP Police pour la zone sud.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de tournant. Ce qui est sûr, c'est qu'on leur a fait mal. Alors, la nature a horreur du vide. Lorsqu'un réseau tombe, on peut imaginer qu'il y aura une opposition tôt ou tard.
Ce syndicaliste qui relève en tout cas une certaine en ce moment sur le front des règlements de compte, mais qui demande en même temps ce qu'on puisse aller plus loin dans les investigations, notamment autour de l'utilisation des réseaux sociaux par ces trafiquants.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. 13h07 à l'international maintenant. L'actualité, c'est ce nouveau coup de pression de Vladimir Poutine. Caroline Baudry, ce matin, le président russe a vanté l'armement nucléaire de son pays, le jugeant plus avancé que celui des États-Unis.
Oui, déclaration dans un entretien à la télévision russe, je cite, des triades, ceux qui transportent les armes atomiques. Seuls les Américains et nous en avons vraiment, et là nous sommes beaucoup plus avancés. Toute la composante nucléaire est plus moderne chez nous. Le président russe ajoute que son pays est prêt à un conflit nucléaire, mais qu'il n'y a jamais songé, ce n'est pas nécessaire, dit-il, alors que les Occidentaux l'accusent d'agiter régulièrement la menace. Vladimir Poutine réagit aussi pour la première fois au propos d'Emmanuel Macron, qui n'avait pas exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine.
Si nous parlons des contingents militaires officiels des pays étrangers, je suis sûr que cela ne changera pas la situation sur le champ de bataille. C'est le point le plus important, tout comme la fourniture d'armes ne change rien.
Il souligne la rancune, ce sont ces mots de son homologue français face à l'influence grandissante de la Russie en Afrique, notamment via le déploiement du groupe armé Wagner.
Caroline Baudry pour Europe 1. Allez, 13h08, restez bien avec nous sur Europe 1 dans quelques instants. Affluence record sur le site de la SNCF pour l'ouverture des ventes de billets pour l'été prochain. Montant record aussi pour les dividendes versés par les grandes entreprises françaises. Et puis cette fronde de l'enseignement public contre l'enseignement privé. Europe 1 décrypte l'actualité pour vous, alors restez bien. À tout de suite.
Céline Giraud vous informe de 13h à 14h. Bon début d'après-midi sur Europe 1.
Europe 1. Europe 1 13h.
Merci de nous rejoindre. Bienvenue sur Europe 1. Il est 13h10. La suite du journal avec vous, Céline Géraud.
Et dans ce journal, je vous parle de cette fronde anti-école privée qui s'organise. Un collectif d'associations et de syndicats du milieu éducatif réclame que l'argent public aille à l'école publique. Fermez les guillemets, sous-entendu. Et il faut couper le cordon financier de l'enseignement privé sous contrat, représenté à plus de 90% par des établissements catholiques et subventionné à plus de 70% par l'État. Louis Salé, lors d'une conférence de presse, ce collectif a tenu à afficher son union sur cette revendication.
C'est une union historique contre le privé. En cause, le fait que de plus en plus de familles favorisées se tournent vers l'enseignement catholique qui scolarise 3 fois moins d'élèves boursiers que dans le public. Frédéric Marchand, secrétaire général du syndicat UNSA Éducation.
La priorité de la nation pour son école, ça doit être de donner la priorité à l'école publique et qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer sans rien dire à entretenir une forme de séparatisme scolaire qui devient dangereux pour notre société.
Des arguments injustes pour l'enseignement catholique qui a besoin de cet argent pour accueillir plus de familles modestes et rendre un service public d'éducation. Gilles Demarquet préside l'appel Association des parents d'élèves du privé.
Il y a 1,5 million de parents en France qui en font le choix de l'enseignement catholique et de l'enseignement privé sous contrat. Je pense que c'est pas pour rien. Et cette liberté de choix, pour qu'elle puisse s'exercer, il faut qu'il y ait les moyens de l'exercer.
Mais cette fronde anti-privée n'est pas prête de s'arrêter. Un rapport parlementaire publié début avril a prévu de s'attaquer au contrôle soi-disant insuffisant de l'État sur les financements accordés à l'enseignement catholique.
Louis Salé, spécialiste éducation pour Europe 1. Allez, 13h12, les actionnaires peuvent avoir le sourire. Selon l'étude annuelle du gestionnaire d'actifs Janus Henderson, les dividendes versés par 40 grandes entreprises françaises ont atteint un niveau record. Le contexte mondial est porteur, c'est vrai, puisque 21 autres pays comme les États-Unis, l'Allemagne ou l'Italie réalisent aussi des performances historiques. Barthélémy Philippe, les sommes versées sont impressionnantes.
Oui, au total, le CAC 40 a versé 63 milliards d'euros à ses actionnaires, un résultat en hausse de près de 10% sur un an. Avec cette performance, la France est le pays de l'Union européenne qui verse le plus de dividendes devant l'Allemagne. Une bonne nouvelle que souligne Kevin Tauzet, spécialiste en investissement chez Carmignac.
Ça, on le retrouve sur l'ensemble des secteurs. En CAC 40, on a des fleurons de l'industrie du luxe. Si on regarde des entreprises comme L'Oréal, comme Hermès, comme LVMH, elles ont payé des dividendes importants. LVMH, c'est 6 milliards de dividendes versés en 2023 et L'Oréal, c'est 3 milliards de versés. Dans le domaine de l'aéronautique aussi, que ce soit Safran ou Airbus, là aussi, des payeurs de dividendes.
La plus forte progression est à l'actif d'Engie. Le fournisseur d'énergie a versé son plus haut niveau de dividendes depuis 10 ans. Petite déception toutefois, aucune entreprise tricolore dans le top 20 mondial, alors que c'était le cas en 2022 avec Total Energy. Plus généralement, l'avenir s'annonce radieux pour les actionnaires. Après le record de 1512 milliards d'euros de dividendes versés dans le monde en 2023, Janus Henderson prévoit une nouvelle hausse de 4% cette année.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Ah, la petite mélodie de la SNCF, vous la reconnaissez bien sûr, c'est le parfum des vacances et sans surprise, l'ouverture des ventes de billets de train pour l'été prochain est un succès pour la SNCF, avec un pic de vente dès 6h du matin. Aurélien Fleureau, 30 millions de billets ont été vendus l'été dernier, alors ce record est bien parti pour être battu.
Effectivement Céline, les Français étaient dans les starting blocks dès tôt ce matin pour réserver, selon la toute dernière mise à jour. Plus de 800 000 billets ont déjà été vendus sur SNCF Connect, un trafic en hausse de 50% sur un an avec dès 6h du matin jusqu'à 8 TGV vendus par minute et un pic de 400 000 personnes connectées à 9h. Conséquence de cet afflux, les petits prix partent plus vite et l'effet Jeux Olympiques se fait ressentir comme l'a observé Victor Berthaud de la plateforme de réservation Combo.
On observe en effet que les prix ont augmenté et que les places sont de moins en moins disponibles. Donc je pourrais conseiller à tous les voyageurs de se dépêcher pour réserver leurs billets pour aller voir les événements des Jeux Olympiques.
Avec des prix en augmentation de 10 à 15% par rapport à la même période l'an dernier selon Combo, c'est tout simplement l'effet de l'offre et de la demande. Une demande en très forte hausse sur toutes les plateformes. Plus 115% vient d'annoncer le leader européen Trainline, qui rappelle que l'été dernier, les voyageurs ayant réservé dès les premiers jours ont pu réaliser en moyenne 40% d'économies.
Merci Aurélien Fleureau du spécialiste transport européen. Vous avez pris vos billets, vous ?
Pas encore, j'ai pas eu le temps.
Dépêchez-vous. Allez, 13h15, on fait un point sur les marchés comme chaque jour avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Et ça grimpe de record en record. Hein.
On ne s'arrête plus. Le CAC 40 a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 8100 points ce matin. Il gagne 0,4%, 8125 points. La vedette du jour à Paris, c'est BNP Paribas. La banque va augmenter de 400 millions d'euros ses efforts de réduction des coûts. Des économies alors qu'elle a publié des résultats décevants au quatrième trimestre. L'action bondit de 2,8%. Et puis parmi les autres moteurs de cette séance, plusieurs poids lourds ont inscrit des pics historiques. Il s'agit d'Hermès, Air Liquide, Essilor Luxottica et Vinci. Record battu aussi ce matin en Allemagne pour l'indice DAX, il gagne 0,1%. Londres est stable, Milan gagne 0,6%. Et le CAC 40 est donc au plus haut historique à Paris, 8125 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com. Allez, place à la météo.
Avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
La météo donc avec vous Géraldine Amon, soleil au sud, grisaille au nord, température en hausse.
Tout à fait Céline, des températures bien douces pour la saison, 2 à 3 degrés au-dessus des normales. Il fera par exemple 14 degrés à Cherbourg, 15 degrés à Brest, 16 degrés à Paris, 17 degrés à Lyon, 18 degrés à Marseille, 19 à Bordeaux, jusqu'à 21 degrés à Biarritz. Pour les couleurs du ciel, eh bien, le soleil est de retour des Alpes au pourtour méditerranéen et aux abords des Pyrénées. Le ciel sera cependant plus changeant en Corse, avec des nuages bas sur la façade ouest qui vont faire leur apparition. Le temps ensoleillé finit aussi par gagner tout le sud-ouest jusqu'au Poitou et le Limousin. Ailleurs, du nord-ouest de l'Hexagone au centre et l'Auvergne-Rhône-Alpes, des éclaircies se développent et l'après-midi se poursuit sous une alternance de soleil et de nuages. Et sur le nord-est, les apparitions du soleil sont plus timides et le ciel restera plus encombré, notamment sur l'est de la Lorraine et l'Alsace. Quelques gouttes seront encore possibles près des Vosges. Demain sera la plus belle journée de la semaine. Profitez-en avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation vendredi.
Merci beaucoup Géraldine Amon. Allez, 13h17, vous ne bougez surtout pas dans quelques instants avec mes chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas et Paul Melun, mais aussi Catherine Ney hein, qui nous rejoindra dans le studio. On va revenir bien sûr sur la disparition de Philippe de Gaulle, le fils du général. Ce matin, à l'âge de 102 ans, une grande partie de la classe politique se réclame du général de Gaulle. Mais où est le gaullisme aujourd'hui? Qu'en reste-t-il vraiment? On en parle avec vous, bien sûr, auditeurs d'Europe 1, venez réagir.
Au 01 80 20 39 21 de 13h à 14h, vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
Europe 1 13h.
De 13h à 14h avec Céline Giraud sur Europe 1. Céline, on vous retrouve entourée aujourd'hui de Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, l'essayiste et écrivain Paul Melun. Et pour évoquer la disparition de Philippe de Gaulle, Catherine est avec vous.
Oui, joli plateau. Merci à tous d'être là. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. 13h21, bien sûr, on est ensemble jusqu'à 14h. Et comme chaque jour, on va décortiquer l'actualité qui est très riche. Hein. Après la Corse, la Bretagne hein, qui réclame plus d'autonomie. Sciences Po à la dérive, la guerre école publique, école privée, le nouveau coup de pression aussi de Vladimir Poutine. Mais évidemment, là tout de suite, j'aimerais vous entendre sur cette disparition. Hein. L'amiral Philippe de Gaulle s'est donc éteint la nuit dernière à l'âge de 102 ans. Catherine Ney, vous aviez eu la chance de le rencontrer hein, il y a peu. Hein. C'était le 13 novembre 2022 pour le Journal du Dimanche. Ce papier hein, que j'ai relu avec beaucoup de plaisir, Philippe de Gaulle, « La der des der », on y trouve évidemment plein d'informations. Et notamment cette citation de Churchill, « À l'ombre d'un grand chêne, les jeunes plants ne reçoivent pas assez de soleil ».
C'était le fils Churchill oui. qui d'ailleurs... Le père ne l'avait si peu regardé qu'il s'était suicidé. Et l'amiral de Gaulle aimait à dire « Voyez, moi je ne me suis pas suicidé ». Mais disant cela, et c'est lui qui m'avait cité l'exemple du fils, c'était pour montrer que quand on est le fils de Gaulle, c'est pas facile. Alors il vouait à son père évidemment un culte ébloui, mais harassé. Parce que d'abord, et un peu frustré, parce qu'il avait été le fils de Gaulle, il n'a pas été compagnon de la Libération alors qu'il était arrivé le premier. Et d'ailleurs, s'il avait été compagnon de la Libération, comme le dernier aurait été enterré dans la crypte, c'est lui qui aurait dû être au Mont-Valérien, vous voyez.
C'est l'un de ses grands regrets.
Mais oui, c'est pas ça, parce qu'il dit « Moi, je voulais être enterré avec ma femme à Colombey, dans notre caveau, à côté des parents. » Enfin, enfin, je ne sais pas si c'était son souhait d'être dans la crib, mais c'est de ne avoir pas été reconnu par son père qui ne lui a rien donné. Puis en plus, c'est vrai que dans, là, quand, du temps du général de Gaulle, quand on parlait de l'amiral qui avait fait carrière militaire, de la navale, ce qui est quand même le haut du panier de l'armée, on le considérait un peu comme un crétin. Quand on l'appelait Sosthène, alors on ne sait pas si c'était le canard enchaîné. Oui. Alors je me demandais, ça voulait dire, c'était la pièce de Maupassant, mon oncle Sosthène, que dont l'auteur disait lui-même que c'était un libre penseur idiot. Donc c'était en tous les cas pas un compliment. Mmh. Donc ça, il en a souffert. Et
mais pourquoi son père ne voulait pas qu'il soit compagnon de la Libération ?
Parce que pas de favoritisme, pas de népotisme. D'ailleurs, ce matin, le fils de l'amiral rappelait que son grand-père avait créé le mérite, enfin je ne sais pas quelle autre croix, il ne l'a jamais donné. En revanche, il avait fait une très belle guerre, et c'est le général de Clercq qui l'avait décoré de la croix de guerre, mm-hmm. ce qui n'était pas rien. Et alors, vous voyez, il vient d'écrire ses souvenirs, ses derniers souvenirs. Alors c'est un livre dans lequel, au dernier moment, on lui dit qu'est-ce qui vous a le plus marqué. Et bien il revient sur le fait de ne pas avoir été compagnon de la Libération, oui. et d'un père qui, voilà, le traitait autre chose. Et surtout, d'avoir fait une guerre extraordinaire, d'avoir failli mourir plusieurs fois. Et quand il est rentré de la guerre, il avait 24 ans, il a été accueilli par ses parents qui ne lui ont posé aucune question. C'est-à-dire donc, on n'interrompait pas et on n'essayait pas de créer la conversation quand vous n'étiez pas questionné. Mmh. Mais vous voyez, c'était des parents et il a beaucoup souffert d'avoir une mère qui était mais totalement indifférente, pas du tout maternelle, qui n'aimait que le grand homme et personne d'autre.
Catherine Ney avec nous en direct dans le studio d'Europe 1 13h et on revient sur la disparition de Philippe de Gaulle ce matin. Charlotte Dornelas, toute la classe politique se réclame du général de Gaulle, mais où en est le gaullisme aujourd'hui ? Que reste-t-il ?
Voilà, vous avez 4 heures.
Vous avez 4 heures.
Allez-y. Bonne question, ça.
Non, mais c'est vrai que c'est une question extrêmement difficile. D'abord, pour une raison simple, c'est que le général de Gaulle appartenait aussi à son époque, à une époque marquée quand même par des défis et la gravité de la situation, et qu'il est difficile de faire parler le général aujourd'hui avec une situation extrêmement différente, une évolution de la vie politique, des partis politiques. Donc, essayer de le caler ici ou là aujourd'hui, ce serait à mon avis déjà compliqué et sujet évidemment à mille contradictions et discussions. Mais simplement, son fils, hein, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, il donnait une définition du gaullisme que j'ai retrouvée. Il disait c'est le sens moral de la nation et la constante des valeurs françaises de tous les temps.
Oui.
Je pense qu'en effet, c'est une règle de base, mais qui est discutée aujourd'hui, donc qui est peut-être appartenait elle aussi à une époque. D'ailleurs, ce que vous racontez, même sur le fait qu'il revienne de la guerre et que ses parents ne lui posent pas une question, c'est évidemment propre à une famille, mais aussi à une époque. On voit toute une époque de pudeur absolue et parfois même difficilement compréhensible pour nous, très injuste pour le Français dévoué qu'il a été, au moins autant que son père, en réalité, dans sa carrière à lui. Mais voilà, je pense que cette définition est déjà une belle définition et qui est déjà un combat aujourd'hui, donc qui me semble être une bonne base, on va dire.
Paul Melun, général de Gaulle, qui disait aussi « La gauche me critique, mais elle se réclamera de moi ».
Oui, on en est un petit peu là aujourd'hui. Encore que vous observerez que dans le paysage politique, aujourd'hui, les symboles sont disputés de tous, que les références à l'histoire sont parfois un peu maladroites. En témoigne ce qu'avait dit Valéry Ayer sur Chamberlain et sur Daladier. Vous voyez, tout ça est extrêmement complexe et je rejoins ce qu'a dit Charlotte. Pour ce qui est de l'amiral, effectivement, il a eu une vie hors du commun. Et il y a une partie de sa personnalité qui est moins connue, c'est cette personnalité aussi d'illustrateur, d'artiste. Hein, les sauveteurs en mer, c'est lui qui avait fait le design de l'image, etc. Il a énormément peint, il a sculpté, il y a de la céramique. Donc, si vous voulez, c'est infiniment complexe, c'est une personnalité compliquée. Et je trouve qu'avec lui, une page, effectivement, du gaullisme s'en va, se tourne. Et il avait peut-être en lui aussi une humilité toute gaullienne, finalement, dans son service à la France. C'est-à-dire qu'on sert la France avant de servir ses propres intérêts. Il y a une forme de grande valeur morale au gaullisme. Et je pense que par-delà les définitions conceptuelles, politiques qu'on peut donner du gaullisme, mais peut-être qu'on s'accorde pas tous sur ces définitions-là. Il y a beaucoup de citations, c'est très riche, donc c'est difficile de définir précisément les contours du gaullisme. En revanche, moralement, dans le service de l'État, dans le service de la nation, dans le service de la patrie, là, je pense qu'on peut avoir les contours du gaullisme et que l'amiral était profondément en lui-même gaulliste, évidemment, et que c'est aussi ça qui nous fait un peu de peine aujourd'hui.
Paul Melun, Charlotte Dornelas et Catherine Ney, grand témoin avec nous aujourd'hui. On reste ensemble dans quelques instants. On va continuer à évoquer la disparition de Philippe de Gaulle. Et on sera d'ailleurs avec le maire de Colombey-les-Deux-Églises, hein, puisque c'est une information Europe 1. L'amiral Philippe de Gaulle sera inhumé la semaine prochaine, enfin dans quelques heures, là-bas à Colombey-les-Deux-Églises. On aura quelques informations. À tout de suite sur Europe 1.
Céline Giraud vous accompagne et vous informe de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
À 13h30 sur Europe 1 et avec vous Céline Giraud.
Des propos parfaitement intolérables. Emmanuel Macron dénonce la mobilisation pro-palestinienne hier à Sciences Po Paris. Selon la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, le chef de l'État a rappelé en Conseil des ministres avec clarté et fermeté sa position. Les établissements universitaires sont autonomes, mais cette autonomie ne justifie en aucun cas le moindre début de séparatisme. Fermez les guillemets. La mort de l'amiral Philippe de Gaulle, le fils aîné du général de Gaulle, cette nuit à Paris à l'âge de 102 ans. Un hommage national lui sera rendu aux Invalides la semaine prochaine. Il sera ensuite inhumé à Colombey-les-Deux-Églises. Vladimir Poutine affirme que l'armement nucléaire de son pays est plus avancé que celui des États-Unis. Le président russe assure que son arsenal était toujours prêt à une guerre nucléaire et que l'envoi de soldats de l'OTAN en Ukraine ne changerait rien sur le champ de bataille. Emmanuel Macron prendra lui la parole demain soir à la télévision pour évoquer le soutien de la France à l'Ukraine. L'Assemblée nationale a approuvé à une large majorité l'accord bilatéral signé avec Kiev. L'ouverture des réservations de billets de train pour les vacances d'été, des billets à réserver sur l'application ou le site internet de la SNCF. Les employés au guichet et à la centrale téléphonique sont en grève pour réclamer de meilleures conditions de travail. Enfin, la fin des quarts de finale de la Coupe de France ce soir. Le PSG affronte Nice à 21h10.
13h32 sur Europe 1, vous écoutez Europe 1 13h et Céline, vous revenez sur la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle avec Catherine Ney avec vous en studio et vos deux chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche et l'essayiste et écrivain Paul Melun.
Et avec vous, Catherine Ney, on le rappelle, hein, vous avez rencontré hein, Philippe de Gaulle pour le Journal du Dimanche le 13 novembre 2022, ce papier a retrouvé dans le Journal du Dimanche. Est-ce qu'il était engagé en politique et comment voyait-il les successeurs de son père à l'Élysée, Pompidou, Chirac?
Là, il a beaucoup aimé Jacques Chirac, il a été sénateur de RPR, il allait dans toutes les manifestations, dans tous les... Il y avait ses fils, au fil, il avait un autre fils qui était député de Paris pendant un temps, donc c'était une famille qui a aussi voulu faire de la politique. Mais on le regardait un peu déjà comme une relique quand même, et il n'intervenait pas. Mais au Sénat, il était absolument présent, il y déjeunait tous les jours, enfin, il était... Mais je pense qu'il était surtout attelé à une tâche extraordinaire, c'est les archives du père, qu'il a lui-même trié, il en a apporté plus de 118 000 à la banque, à la Bibliothèque nationale, et il a publié plus de 13 tomes de cahiers, de carnets, de son père. Enfin, c'est lui qui a fait ce travail,
oui,
de bénédictin,
ça, de mémoire,
que lui seul pouvait faire. Donc, il était totalement investi, parce que être le fils du général de Gaulle, c'est être appelé sans arrêt à inaugurer des stèles, des rues, aller faire des discours pour les anniversaires sur les places, et à plus répondre aux gens qui disaient qu'en aurait pensé votre père, évidemment, il pouvait ne pas penser à sa place, mais c'était quelque chose qui, quelquefois, le harcelait, et c'était une vie qui n'était pas facile, et trouvait que pour avoir mené cette vie-là, il n'en avait pas eu de récompense, enfin, côté parents, ni côté. Ni côté de ni même des politiques, il le prenait pour Sosthène, voyez. Oui. Donc il a fait quand même une très belle carrière militaire parce que il a été quand même l'amiral de toute la flotte atlantique. Et d'ailleurs c'est à ce titre qu'il avait été reçu en Russie par Brejnev, par les autres, évidemment, qui non seulement parce qu'il y avait son rôle d'amiral, mais parce qu'il était le fils d'eux, et ça c'est sûr. Et là il m'avait dit, là parce que c'était le début de la guerre, il m'avait dit mais il faut pas se séparer des Russes, ce sont des Européens, il ne faut pas ça. Mais alors qu'aurait dit de Gaulle aujourd'hui, où ça en est, ça, je n'en sais rien. Voilà. En tous les cas, il disait aussi de Macron, il dit c'est un jeune homme qui fait des expériences.
C'est pas mal.
Il avait beaucoup d'humour.
Alors, dans son analyse de la droite, René Raymond classait le gaullisme comme un avatar du bonapartisme. Est-ce que le gaullisme est de droite, Charlotte Dornelas? Vous avez encore 4 heures.
Oui, c'est ça. Là, c'est un peu plus simple, je pense. Est-ce que le gaullisme est de droite philosophiquement? Alors, encore une fois, je m'écarte de l'échiquier et surtout de l'échiquier d'aujourd'hui pour classer De Gaulle, mais philosophiquement, et c'était inévitablement de droite. Oui, dans la tradition philosophique, même dans le rapport au catholicisme du père, en tout cas le fils, je le connaissais pas aussi bien que le père, on va dire, et encore avec beaucoup d'humilité. Mais il est évident que ça transpire par tous les pores de ses écrits, de sa peau, de son engagement. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous ceux qui se réclament du gaullisme, on le voit encore récemment dans le dernier conflit, où c'est en réalité, c'est d'abord on ne garde de De Gaulle, quand on se réfère au gaullisme, surtout pour accuser son adversaire en général, on ne garde que le De Gaulle de 1940 et de son appel du 18 juin qu'on aurait tous aimé faire à sa place, mais notons quand même avec beaucoup d'humilité qu'il était seul, et il était bien seul à l'époque. Or, on n'a pas une supériorité morale à tous les gens qui étaient ses contemporains, donc admirons son courage, essayons de voir les vertus qui ont poussé à ça aussi pour les alimenter chez nous, plutôt que d'essayer de se servir de De Gaulle pour accuser les gens d'en face toujours de la même chose. Parce que je note qu'aujourd'hui, on aurait du mal à s'y retrouver entre, par exemple, son rapport à l'Europe, le rapport d'ailleurs de son fils qui s'était opposé, par exemple, à Maastricht en 92. Qu'est-ce qu'on fait de ça aujourd'hui dans la majorité, par exemple? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait de la question du rejet absolu et qui était signifié par son fils quand il s'était engagé en politique du socialisme, beaucoup plus largement que les personnes encore? Qu'est-ce qu'on fait de cette phrase de De Gaulle qui dit d'abord la France, ensuite l'État et enfin le droit, aujourd'hui où le droit régule absolument tout notre rapport et à la France et à l'Europe. Donc vous voyez qu'il y a évidemment une substance chez De Gaulle, et aujourd'hui tous ceux qui se réclament du gaullisme, il y en a certains qui à mon avis seraient renvoyés quand même dans leur but assez rapidement si le général De Gaulle devait revenir ici. Donc je pense qu'il faut vraiment essayer tous de voir ce que nous admirons collectivement, et ça c'est une bonne chose, qu'il y ait une admiration collective d'un homme et du courage au moment où il en fallait, et qu'on admire ça et qu'on le cultive dans l'éducation notamment des futurs petits Français, enfin des Français actuels, mais qui seront demain aux décisionnaires, plutôt que d'essayer d'en faire une instrumentalisation, là pour le coup vraiment politique, qui est souvent assez caduque.
Paul Melun, oui, le gaullisme de droite.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Charlotte sur le gaullisme de droite. Allez-y. Moi, je voudrais vous raconter aussi le De Gaulle de gauche, parce que je pense que c'est ça qui est fascinant avec
le
gaullisme.
Alors racontez-nous, parce que ça va être le De Gaulle catholique en réalité, ce que vous appelez le...
Peut-être. Alors effectivement, on peut mettre derrière la charité chrétienne, derrière toutes sortes de choses, des choses qui se rapprochent de la gauche, et même peut-être dans l'essence de la gauche, y a-t-il du catholicisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, De Gaulle avait une phrase extraordinaire, vous savez, quand il définissait, il disait, la France c'est tout à la fois, c'est tous les Français, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France. Naturellement, les Français, comme de tout temps, ressent en eux des courants. Il y a l'éternel courant du mouvement, qui va aux réformes, qui va au changement, qui est naturellement nécessaire. Et puis, il y a aussi un courant de l'ordre, de la règle, de la tradition, qui lui aussi est nécessaire. Et en fait, De Gaulle faisait une merveilleuse synthèse. C'était pas une synthèse, si vous voulez, comme les hommes de la synthèse qu'on a eu après, ou comme Emmanuel Macron prétendrait la faire. Lui, c'était une synthèse parce qu'il mettait la France avant tout. Et il expliquait que toute personne qui se positionnait d'un camp, fut-il de droite ou fut-il de gauche, n'avait pas suffisamment compris la France dans son entièreté. Donc c'est un message à peine voilé à ceux qui aujourd'hui parlent d'union des droites ou d'union de la gauche. Moi je pense qu'il faut parler d'union patriotique, d'union des nationaux, parce que De Gaulle fait aussi dans d'autres textes la différence entre les nationaux et les nationalistes. Il se présente pas comme un nationaliste, il dit le nationalisme c'est finalement une forme de haine de l'autre, par-delà les frontières, de considérer le voisin finalement comme un ennemi. Non, lui il est un national, c'est-à-dire qu'il est pour l'affirmation nationale, pour la puissance nationale. Et je pense que c'est un formidable appel à la souveraineté nationale, le gaullisme, tout en y adjoignant un certain nombre de valeurs. Et dans ces valeurs, effectivement, il y a des valeurs de charité, d'humanisme, des valeurs sociales. Quand il parle d'autodétermination après la décolonisation, etc., il y a ça aussi chez De Gaulle. Oui. Il y a quelque chose qui est tout sauf un impérialisme, tout sauf du bellicisme. Pour ça qu'aujourd'hui, je serais très curieux d'avoir une authentique parole gaullienne, par exemple, sur le conflit russo-ukrainien. Parce qu'effectivement, où est la voix de la paix là-dedans. Et je pense que le gaullisme serait une voie de la paix.
Une disparition qui a évidemment touché tout particulièrement la ville de Colombelles et deux églises où il sera inhumé la semaine prochaine. On va écouter, Pascal Babouaud est avec nous en direct. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de la commune de Colombelles et les deux églises. Alors évidemment, l'émotion est forte ce matin, mais c'est une page qui se tourne dans votre commune.
Exactement. Pour nous, c'est vrai qu'après le général, la génération d'après s'éteint aujourd'hui avec la disparition de l'amiral. C'était attendu, bien sûr, à 102 ans, c'est dans l'ordre des choses. Son caveau est prêt, et il est prêt à rejoindre son épouse Henriette, qui est décédée il y a un peu plus de 10 ans, pas tout à fait 10 ans, c'était au mois de juin 2014. Et maintenant, on laisse la famille, bien évidemment, qu'on va essayer d'accompagner au mieux pour organiser ces cérémonies à Colombelles qui seront toujours, je pense, comme ça a toujours été la tradition, très simple.
Merci beaucoup Pascal Babouo. Effectivement, on suivra cette inhumation, ces informations d'Europe 1. Donc il sera enterré hein, la semaine prochaine aux côtés de sa femme Henriette. On a Jean-Régis qui nous appelle du côté de Franche-Comté. Bonjour Jean-Régis.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous en direct. Vous vouliez réagir à la disparition de Philippe de Gaulle?
Oui, une grande page se tourne. La famille de Gaulle, c'est l'amour de la France, l'indépendance de la France. Je pense, vous parliez tout à l'heure du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que le général, par exemple, aurait tout simplement clamé son indépendance. Il n'aurait pas apporté d'aide à l'Ukraine. Il aurait plutôt proposé une solution entre les deux belligérants. Et puis, c'est l'indépendance vis-à-vis des États-Unis également, en refusant l'entrée dans l'OTAN, quoi.
Merci Jean-Régis qui nous écoute en Franche-Comté. Raphaël aussi est avec nous, qui nous écoute en Auvergne. Bonjour Raphaël.
Bonjour, oui, moi je voulais réagir. Je disais, Catherine Ney, c'est ça même mieux que moi, c'est que le gaullisme politique, il est mort en 1970. Il n'y a pas un seul président de Pompidou à Macron qui peut se réclamer d'une once de gaullisme, c'est une évidence. Donc le fils incarnait ça en tant que militaire, il était une continuité familiale, si j'ose dire, mais son poids politique n'a jamais été important, c'était très pesant pour lui d'être ouais. De Gaulle. Par contre, c'est celui qui a le mieux écrit, on le dit peu, c'est celui qui a le mieux écrit sur le mandat de son père, sur les mandats de son père. C'est une mine ce qu'il a écrit. Et puis je voudrais juste finir en disant, on parle du conflit en Ukraine, ce qui est une certitude, c'est que Charles de Gaulle ne serait pas allé servir la soupe à Poutine et aurait fait certainement le cérémonial de la chaise vide. Ça, c'est une certitude.
Merci Raphaël. Alors je vous pose la question, du coup, Catherine, est-ce que le gaullisme est mort avec lui en 1970?
Ça voulait plus rien dire pour Jacques Chirac qui avait dit « moi j'ai jamais été gaulliste ». Il l'avait dit, il nous le disait au départ. Lui, il n'était pas de cette... était un vieux radical de famille et tout ça. Il est devenu pompidolien. Alors, est-ce que Georges Pompidou était... il était gaulliste à sa manière, parce que Georges Pompidou, il trouvait aussi qu'il a fini par se séparer du général. Et puis, qui avait fait la guerre, qui avait été lui aussi son disciple aimé du général de Gaulle. Mais il trouvait que, quelquefois, le général de Gaulle faisait des discours qui étaient un peu chimériques, utopistes. Et il disait, en tous les cas, que si la France voulait continuer avoir ce message universel, continuer à faire entendre sa voix, il était absolument impératif qu'elle soit une puissance économique avec une industrie et qu'elle ne pouvait peser que si elle était une grande puissance économique. Sinon, elle ne pèserait pas. Donc, c'est très d'actualité aujourd'hui. Vous voyez, et donc, c'est pour ça que le général et lui, à la fin, n'étaient plus tout à fait sur la même longueur d'onde.
Eh bien, merci beaucoup Catherine Ney pour ce témoignage précieux. On remercie aussi beaucoup Pascal Babouo, le maire de la commune de Colombey-les-Deux-Églises, qui était avec nous en direct il y a quelques instants. Merci à Raphaël et à Jean-Régis, nos deux auditeurs, Charlotte Ornelas et Paul Melun. Bien sûr, on reste ensemble et vous, auditeurs d'Europe 1, parce qu'on va évidemment brosser d'autres sujets d'actualité, notamment Sciences Po, une institution qui part à la dérive. À tout de suite sur Europe 1.
Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud, que vous écoutez tous les jours de 13h à 14h sur Europe 1.
Europe 1 13h.
Europe 1 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud. Et pour décrypter l'actualité, vos deux chroniqueurs du jour, Charlotte Dornelas, journaliste au Journal du Dimanche, et essayiste et écrivain Paul Melun.
Et on revient sur cette polémique autour de cette institution, Sciences Politiques, à la dérive des 10 militants pro-palestiniens, donc ont bloqué l'amphithéâtre de cette institution qui, je le rappelle, est financée en grande partie par l'État. Hier, la direction de Sciences Po et la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, ont condamné l'action de ce groupe d'étudiants. Paul Melun, ce matin, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dénoncé des propos inqualifiables et parfaitement intolérables.
Oui, bien sûr, il a raison. Il a parfaitement raison. Le problème, si vous voulez, c'est que ce qui se passe aujourd'hui à Sciences Po est le résultat d'un long processus. Et qu'en fait, le président de la République déplore aujourd'hui, et il a raison de déplorer, de toute façon, toute personne, si vous voulez, normalement constituée, considérera absurde, dangereux, gravissime les propos qui ont été tenus et les mobilisations dites pro-palestiniennes, qui finalement sont plutôt des manifestations pro-Hamas, parce qu'on a le droit d'être très empathique envers les civils palestiniens.
L'amphithéâtre a d'ailleurs été rebaptisé Amphithéâtre Gaza.
Donc, vous voyez, ça annonce bien ce qu'il, la couleur et ce qu'il pense. Et effectivement, cette coloration, je dirais, islamo-gauchiste des instituts d'études politiques, donc de Sciences Po et de ses avatars en région, c'est pas d'aujourd'hui. Et effectivement, depuis plusieurs années, depuis plusieurs dizaines d'années, on a laissé faire. On a laissé s'imposer une forme de terreur où les professeurs qui sont, on parlait tout à l'heure du gaullisme, un professeur qui serait gaulliste ou gaulliste de droite ou de droite à Sciences Po aujourd'hui, je lui souhaite bien du courage parce qu'il va se prendre toutes sortes de pétitions toute la journée.
De Gaulle lui-même,
il n'y en a quasiment plus. Donc aujourd'hui, on ne peut plus organiser des conférences à Sciences Po si on n'est pas plus à gauche que le Parti Socialiste, parce que même le Parti Socialiste ou François Hollande, ils sont considérés comme à droite chez eux, ou Bernard Cazeneuve, etc., etc. Donc si vous voulez, les instituts d'études politiques sont en voie de radicalisation. Ils sont sur une forme de dérive vers, effectivement, l'islamo-gauchisme. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème, c'est que c'était Frédéric Vidal, je crois, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui avait dénoncé l'islamo-gauchisme et l'entrisme de l'islamo-gauchisme à l'université. Que n'avait-elle dit? Puis après, elle avait dit qu'elle confierait une enquête au CNRS. Ben, le problème, c'est que le CNRS est lui-même un peu l'antichambre de la même idéologie. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué, quoi. Et le problème, c'est que ça, c'est pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène qu'on voit à Berkeley, où Madame Butler, Judith Butler, enseigne, que l'on voit dans toutes les meilleures universités du monde, les universités de la Ivy League aux États-Unis, toutes les universités anglo-saxonnes du monde, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, l'idéologie woke, l'idéologie de la cancel culture, l'idéologie islamo-gauchiste, elle a fait son lit, elle s'est organisée dans les universités. Par conséquent, Sciences Po est finalement une forme de pointe avancée de cela. Les directeurs successifs collaborent avec cela, et ils ont un peu peur, ils s'arrangent avec l'islamo-gauchisme et par paresse, parce qu'ils ont peur de se prendre les étudiants à dos, ils ont peur pour leur place. D'ailleurs, le directeur de Sciences Po, Mathias Vichra, a démissionné. Son prédécesseur, Frédéric Millon, a démissionné. Et le prochain, peut-être qu'il démissionnera aussi. Parce que de toute façon, c'est intenable. Vous êtes soupçonné de tout le temps. La présomption d'innocence est bafouée. Vous êtes viré comme un malpropre. On fait des affiches, on dit que vous êtes un violeur, un assassin, etc. toutes les 5 minutes. Enfin, je veux dire, cette école, c'est devenu du grand n'importe quoi, pour parler clairement. Donc, à un moment donné, il va falloir peut-être que le président de la République revoie peut-être le concours d'entrée, revoie les professeurs, revoie la sélection, le financement. Absolument. Mais tout ça, ça demandera un peu de courage politique.
Oui, parce que vous parliez de la direction. Elle a dénoncé des actes en disant vouloir saisir la section disciplinaire en vue de sanctionner ces agissements intolérables, mais les mots ne sont pas mis. Ce matin, Youssef Murciano, le secrétaire national des étudiants juifs de France, était l'invité de Dimitri Pavlenko. Il a dit voilà, c'est de l'anti-sionisme, de l'antisémitisme. Charlotte Dornelas, où est le problème? C'est quoi? C'est la direction d'établissement? C'est les élèves?
Je pense que c'est un problème relativement collectif, enfin une responsabilité en tout cas qui est collective. Vous le disiez, la direction ne met pas les mots sur ce qui s'est passé exactement. Je note que la ministre non plus. Tout le monde l'a félicité d'avoir réagi. Bon, bravo d'avoir réagi, formidable. Elle ne met pas les mots non plus exactement sur ce qui s'est passé. Et je voudrais pas qu'on leur tende la perche, entre guillemets, à ces étudiants, de les qualifier simplement, comme j'entends un peu depuis hier, d'étudiants, de militants pro-palestiniens. Oui. Parce que c'est pas ça le problème, en l'occurrence, hier. Ils ont évidemment le droit d'être militants pro-palestiniens, de défendre la situation en Palestine, c'est pas le sujet. Il y a deux énormes problèmes, notamment au sein de l'université. Le premier, c'est la censure, puisqu'ils bloquent et leur université et toute contradiction. Et le deuxième, encore plus grave, ils bloquent l'accès très directement à une personne, qu'elle soit sioniste, donc pour ses opinions politiques, ou encore pire, tout simplement juive, pour des raisons d'antisémitisme pur, liées sur ce conflit-là. Là, c'est absolument insupportable. Mais il faut qualifier ce qui est réellement insupportable, ce que ni la direction, ni le ministre, en l'occurrence, n'a été capable de faire. Et en effet, pourquoi est-ce que je dis que c'est une responsabilité collective? C'est qu'avant ça, on a d'autres responsables, que ce soit des figures idéologiques, des intellectuels, des militants, des responsables politiques, qui, pour des propos qui étaient jugés insupportables par les élèves, leurs conférences ont été annulées avec l'aval de la direction, qui parfois les annulait elle-même, en disant ça risque de créer de troubles à l'ordre public. Mais quand la direction d'une université à Sciences Po, comme dans d'autres universités, se cache derrière un risque de trouble à l'ordre public pour empêcher la contradiction au sein de l'université française, c'est que l'université française n'a plus lieu d'être en réalité. C'est qu'elle n'est plus défendue pour précisément ce qu'elle était et ce qui a fait son rayonnement dans le monde et la formation notamment de Sciences Po partout dans le monde. Et je renvoie vers une tribune qu'avaient signée les héritiers, puisque c'est la journée des héritiers, les héritiers d'Émile Boutmy, qui est le nom officiel de l'amphithéâtre qui a été rebaptisé hier, qui est le fondateur de Sciences Po, et ses héritiers disait, mais relisez initialement comment il a créé Sciences Po, c'était précisément pour la contradiction, précisément pour alimenter l'esprit critique de ses étudiants. Et c'est surtout ce problème-là, à mon avis, qu'il faut dire et redire hier comme précédemment. Ouais.
Isabelle, qui nous écoute dans le Maine-et-Loire, veut réagir. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Madame Dornella, que je regarde régulièrement sur Europe 1, que j'apprécie énormément.
Bonjour
voilà.
Madame.
Ah oui, oui. Voilà, moi, j'ai pas fait d'études universitaires. Alors, je vais être basique. J'ai fait un LEP, voyez, un LEP, un BEP, CAP, voilà. Puis, j'ai voulu reprendre après. Bon, moi, il y a une seule chose qui m'écœure. Sciences Po, au principe, c'est des gens qui devraient réfléchir, qui devraient avoir un esprit critique, argumenté. On a le droit de pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de faire des choses avec des actes aussi violents. Je regrette, Sciences Po, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on doit leur apprendre. Et je suis aussi écœurée que personne ne dise rien. C'est bon, les grandes phrases, hein, les machins. Mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Mm-hmm. Ben, je veux dire, il faut... Moi, je suis réellement...
Qu'est-ce qu'il faut faire, Isabelle ?
Ben, justement, je ne suis pas présidente de la République, mais moi, je prendrai des sanctions graves contre ces étudiants-là. Et je leur dirai, la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est le droit de parole, de débattre. Et quand on débat, on n'est pas violent. On s'écoute, on a le droit de ne pas être d'accord, on débat. Et je vais vous le dire d'autant plus que moi, je prends les transports en commun, je débat des fois avec des petites jeunes filles, avec des étudiants, tout le monde, parce que j'adore discuter. Je côtoie des gens de tout milieu politique. Et bien, j'ai eu une fois une jeune fille, on n'était pas d'accord, je lui dis, bon, on continue à discuter, vous savez ce qu'elle me répond ?
Non.
Ah ben non, on n'est pas d'accord. Ben, j'ai une mademoiselle, ça s'appelle un débat.
Ouais. Bah, c'est peut-être un mot compliqué hein, pour certains.
Mais oui, non, mais attendez, c'est-à-dire qu'ils sont sur une position radicale. Je dis bien radical, et ça va nous amener sur, vous savez, du stalinisme. Excusez-moi.
Ah, oui,
hein, vous lâche tout.
Et merci beaucoup, Isabelle.
Je voudrais juste rajouter une petite chose.
En 3
secondes. Madame Butler a été reçue. Monsieur Fittelkraut, il est pas reçu. Je comprends pas.
Effectivement, c'est une question. On n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui, mais on en reparlera avec nos débatteurs, évidemment, sur Europe 1. Merci beaucoup, Isabelle, qui nous écoute dans le Maine-et-Loire. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas et Paul Melun. À très vite pour de nouvelles aventures. Et nous, on se retrouve eh bien demain. Merci, Charline.
À demain, Céline. C'était Céline Géraud sur Europe 1. Europe 1 ou 3 fois par semaine, les mardis, mercredis et jeudi, juste après les infos de 8h30. Gaspard Proust vous livre son regard très personnel sur l'actualité. Donc, rendez-vous demain matin après les infos de 8h30. En attendant, vous pouvez retrouver des maintenant, Gaspard Proust en replay sur notre site maisoneurope1.fr et l'application Europe 1. Très bon après-midi. Avec la suite de vos programmes, 14h-15h, c'est Christophe Ondelaton de la Traconte que vous retrouvez juste après les infos d'Émilie Dez sur Europe 1.